France Inter.
Le doom scrolling, c'est presque 6 heures par jour. Voilà. Et après, je me dis, mon Dieu, mon bébé grandit trop vite et je passe même pas mon temps à la regarder. Maintenant, je passe pas mon temps à la regarder parce que je suis les yeux rivés sur mon téléphone.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Zoom Zoom Zen, épisode 122. 122 émissions consacrées à décrypter une expression dans l'air du temps, dont 117 anglicismes dans l'air du temps. Alors aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle, puisqu'on va zoomer sur une expression qui nous concerne tous. Soit on risque de tomber dedans, soit, comme Cyril, on est déjà tombé dedans, le doom scrolling. Doom scrolling. Les bilingues auront compris d'emblée, mais comme je sais d'expérience que les bilingues sont peu nombreux à cette table, CF Cyril.
Le site Right Livelihood Award.
Je vais donc quand même prendre le temps de vous expliquer que l'association de Doom, l'enfer, et scrolling, le scrolling, comme on dit en bon français, le fait de balayer son écran de bas en haut avec le pouce, ça donne le Doom scrolling, soit l'enfer du scrolling, cette manie quasi pathologique qu'on a à passer nos journées à scroller sur nos smartphones. Qui, comme moi, sur le site du Monde ou du RL Tribune, en quête d'articles de fond, qui, sur le Bon Coin, section moto, dans un objectif, disons, plus mercantile. Le résultat est le même, on passe beaucoup trop de temps l'œil rivé à nos portables. Alors que faire? Le doom scrolling est-il le nouveau mal du siècle? En attendant qu'un sociologue un peu malin, sachant parfaitement comment être invité sur le plateau de Quotidien, publie un livre intitulé « Dis-moi comment tu scrolles, je te dirai qui tu es », on va essayer de faire le job ici. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et justement, pour faire le job, non pas un sociologue, mais un journaliste très branché tech, bonjour Dan Gezelhardt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le fondateur du site Tech Trash, la newsletter tech bête et méchante, comme c'est écrit en home de votre site. Chaque semaine, recevez un condensé d'infos espiègles sur la tech. Beaucoup de promesses, il va falloir être à la niveau.
Je vais essayer.
Question espièglerie, mon cher Dan. Et vous êtes également, je le précise, co-auteur avec Lorraine Boudard du livre Les Possédés, ou comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies, chez Arquet Éditions. Alors, Dan, on va tenter ensemble de comprendre les ressorts vicieux du doom scrolling et comment peut-être s'en sortir, réussir en tout cas à se déscotcher de son écran. Le temps de vous présenter ma petite équipe. Et tiens, au lieu de vous les présenter bêtement, comme je le fais d'habitude, je vais vous les présenter comme l'équipe de la com d'Inter, plus précisément l'équipe de la com web d'Inter, aurait voulu que je les présente si j'en crois ce mail reçu la semaine dernière. Un mail qui me proposait des appellations pour chacun de mes chroniqueurs en vue de je ne sais quel podcast. Alors, si je suis les préconisations de ce mail, je ne vous dirai donc plus « Voici Manon Mariani », mais voici la piquante Manon Mariani. Bonjour, piquante Manon.
Bonjour, Mathieu.
Ça vous va parfaitement bien.
Oui, mais moi, j'aime bien piquante.
Je vais l'utiliser. Hein. Tout à l'heure, vous nous direz ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Évidemment, et aujourd'hui, je vous parle d'un filtre qui fait polémique sur TikTok. Un filtre généré par une IA qui est censé améliorer notre visage, sauf qu'il le change complètement. Il nous fait ressembler à des clones des Kardashians. Je vous explique pourquoi c'est problématique dans ma veille sanitaire.
Je viens de voir si, pardon, je fais une insiste, je viens de voir Cyril Lacarrière qui se moquait de vous parce que vous avez ripé sur un mot.
Ouais,
je pense qu'on pourrait lui, on pourrait lui rediffuser
placé,
quelques douces assorts. On pourrait peut-être faire une étude comparative.
C'est parce que j'ai le nez pris, Cyril.
Face à vous, Dan. C'est clairement lui qui s'en sort le mieux dans ses guidelines de la com, puisqu'on suggère de le présenter comme Quentin, le reporter tout-terrain.
Oh, c'est un peu ça.
Sachant que le mec réalise 90% de ses micro-trottoirs dans le 16e autour de la maison de la radio et que la seule fois qu'il a croisé des wesh, comme il les appelle, c'était dans un bus direction le Bourget. C'est bien payé comme ça.
C'est Guillaume Meurice qui m'a appris.
Oui. Bonjour monsieur le reporter de terrain.
Bonjour Mathieu et bonjour tout le monde.
Pas trop dur les frappes russes, ça va? Vous tenez le coup?
On échange quand vous voulez, hein. Vous êtes quand même assez pâle, ça vous ferait pas de mal de sortir un peu là.
Très bien, alors Quentin, allez. Chaque après-midi vous allez à la rencontre des passants pour les faire réagir sur notre thème du jour. Le doom scrolling, ça fait causer?
Déjà le terme n'est pas très très connu, hein. Ça décrit un peu ce qu'on peut ressentir, mais les gens connaissent pas trop le doom scrolling. On peut passer 3 heures sur TikTok, l'information, la surinformation sensationnelle et son impact sur les morales. On en parle avec vous dans un micro-trottoir en direct du front? Non, de Passy, comme d'hab.
Vers 16h30, ils ont beau scroller sur Wikipédia sous la table pendant le quiz, en pensant que je suis dupe, je ne suis dupe de rien.
Hein,
ça
on
sera
jamais,
le zoom, zoom test, vous avez déjà triché maintes fois. En fin d'émission, plus qu'un humoriste, un génie de la guignolade. C'est ainsi que le service de com souhaite qu'on présente désormais Benjamin Franier. Lui aussi nous dira s'il doom scroll ou pas. Alors, Dan Gezelhardt, franchement, on ne devrait pas revenir au bon vieux Nokia 3210 pour finir avec ce genre de problème. Au moins, on était accro du Snake. numérique, mais on ne devenait pas fou comme aujourd'hui.
C'est vrai, on devrait tous revenir au Nokia 3210, en effet, mais le problème c'est que...
On ne peut plus.
On ne peut plus, parce que cet outil qu'on a tous sur la... Je le vois sur la table, hein, oui. Eh bien, il nous sert pas seulement à doomscroller, il nous sert à nous sociabiliser, à prendre des rendez-vous, enfin voilà, il nous sert en fait... Dans
à faire des virements bancaires, il nous sert à plein de choses.
Exactement, à tout faire. Donc c'est très compliqué de revenir, même si on en a peut-être tous envie, enfin, certains d'entre nous en ont envie.
Alors reste à vous présenter Dan, l'ultime membre de cette équipe, notre rédacteur en chef. De tous les surnoms proposés par la com d'Inter, il a évidemment hérité du plus con. Fallait compter sur lui, puisque je vous présente celui qu'on m'a proposé de surnommer le facétieux pédagogue. J'adore. Bonjour Cyril Lacarrière.
Vous jouez très bien la surprise quant à lui. Ça fait deux semaines qu'on connaît ce truc-là, et là on l'a entendu.
Non, là, ce matin.
Mais ça vous va si bien, Cyril.
Les cours Florent. Hein.
Deux acteurs.
Professeur Tournesol.
Facétieux, vous l'êtes, pédagogue. On va voir. Chaque après-midi, vous remontez aux origines de notre mot du jour. Alors, ce doom scrolling, where does it come from?
Doom, les ténèbres, scroller, faire défiler de manière compulsive l'écran de notre portable. Et voilà, devant vos yeux ébahis, la naissance du doom scrolling. Et vous savez quoi? Le doom scrolling vient d'un autre mot, un mot qui nous fera bien une émission un jour. Le FOMO, fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Quoi? On n'en sait rien, et c'est le piège du FOMO. On a peur de rater quelque chose qui pourrait arriver avec quelqu'un, quelque part, sans qu'on sache qui, ni où, ni quoi, ni comment. Bref, on n'en sait rien. Et c'est comme ça, mes chers auditeurs, que vous tombez dans le piège du doom scrolling, dans les ténèbres du défilement sans fin. Comme vous avez peur de passer à côté du truc dont tout le monde va parler, eh bien vous scrollez. Encore et encore, c'est que le début. D'accord.
D'accord. D'accord. Le début, d'accord.
Ouais, je crois qu'on l'a.
Oui, c'est bon, j'avais envie de chanter.
Quand est-ce que le mot a vraiment fait son apparition, Cyril?
Eh bien, difficile de dater avec précision.
C'est con, c'est votre job.
Un peu de patience, parce que vous êtes toujours pressé. Je suis pas le premier à vous le reprocher. Vous soyez pressé, hein.
Bref. Laissez ma femme en dehors de tout ça. Bon, alors.
Des chercheurs américains datent de son apparition en fait à 2018 sur Twitter. Et c'est lors de la crise sanitaire de la Covid-19 que le terme s'est répandu et qu'il est devenu populaire. Autre enseignement de cette étude, le doom scrolling touche aussi bien les gens de gauche que les gens de droite. Mais les hommes et les jeunes sont plus susceptibles de tomber dans ce piège que les femmes. Bravo les femmes. Mais est-ce que vous êtes vraiment sortis d'affaires? Pas sûr. Et c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Bravo les
bravo
femmes.
Bravo les femmes, on aurait dit. On
bravo
aurait
les dit femmes.
Merci Cyril, vraiment.
Une punchline de SS117.
Bravo
les femmes. Merci Cyril. Merci. Dan Gesellard, déjà, donc les femmes seraient moins sujettes à doom scroller. Est-ce qu'on sait pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont en plus les
Alors
femmes
peut-être pour rebondir sur la chronique de Cyril, peut-être qu'elles sont plus intelligentes que les hommes.
Déjà oui,
non, voilà, sans blague.
C'est probablement l'explication. Après, peut-être que culturellement aussi, les hommes ont plus tendance à aller vers les outils techniques, technologiques, même si je ne suis pas sûr que ça se vérifie tant que ça. Donc je n'ai pas de réponse exacte à cette question,
mais cela dit, c'est un fait.
C'est un fait, ouais. En tout cas, c'est une étude, une étude comme celle, vous disiez, d'Oxford. Ouais.
Et comment s'est né ce FOMO, ce fear of missing out dont on parlait? C'est une conséquence directe de l'ampleur qu'ont pris les réseaux sociaux dans notre vie. Ça n'existait pas avant le fear of missing out.
Alors si, le terme existait avant. Le terme est né dans les années 2000, dans le journal de la Harvard Business School. Et justement, c'est un étudiant qui écrivait dans le journal de l'école qui explique que, en fait, il comprend pas pourquoi les étudiants s'infligent un rythme aussi dur, aussi intense, à faire des tonnes de trucs déjà évidemment à étudier, mais aussi à faire toutes les activités, aller au sport, machin, à tout faire en même temps. Et donc, il comprenait pas, il appelait ça le FOMO. Voilà, il disait en fait, ils ont peur de rater quelque chose, ils ont peur peut-être de louper une occasion de rencontrer quelqu'un une occasion de éventuellement un futur partenaire, un futur employeur, je sais pas.
Et donc, clairement, les raisons juste amplifier ça.
Exactement. Et les réseaux sociaux ont amplifié ça depuis quelques années.
Et pour l'info pure et dure, les chaînes d'info en continu, est-ce qu'elles ont un lien avec ça? Américaines, françaises?
Les chaînes d'info, oui, je pense. Alors là, c'est vraiment, parce que c'est le doom scrolling, en fait. Quand on regarde une chaîne d'info en continu, c'est du doom scrolling dans un sens. Et d'ailleurs, je rajouterai à la définition que vous avez tous donnée, le doom scrolling, il y a quand même cet aspect négatif. C'est-à-dire qu'on scrolle sur des infos qui sont négatives et qui sont de plus en plus négatives. Et en en effet, c'est vrai que quand il y a un événement grave qui se produit, un attentat, quelque chose, ouais. Souvent, on va allumer, quand on a encore une télé chez soi, on va allumer la chaîne d'info, on va la garder, on continue à allumer. Et ça, pour moi, c'est exactement la même chose que de scroller pendant des heures.
On parle du scrolling. Est-ce qu'il y a une différence avec swiper? Ça se fait pas, enfin, c'est pas le même geste, ça se fait pas sur les mêmes applications, mais est-ce que c'est pareil? Ça condense les deux?
C'est pas exactement la même chose parce que le swipe, finalement, est plus actif. On est proactif dans un sens quand on swipe. Alors, on n'est pas vraiment, on n'est pas tant que ça.
Mais c'est le scroll, plus un choix.
C'est plus un choix. Et le scroll, il y a vraiment cette notion, en fait, de défilement et qui est infini parce que le scroll infini, rappelons-le, il a été inventé en 2006 par un Américain qui s'appelle Azar Askin et qui, lui, quelques années plus tard, en fait, s'est excusé et a dit, en fait, je pense que j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû inventer ça. on voit que malheureusement, là, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent mal et qui scrollent sans fin, qui laissent défiler, en fait.
À l'heure d'une première pause musicale dans Zoom Zoom Zen, je vous propose de revenir quelques années en arrière, à une époque où on ne scrollait pas et où posait la question « Voulez-vous coucher avec moi ?» ne débouchait pas forcément sur une main courante. Voici Patti LaBelle, une chanteuse pas piquée des hannetons, comme dirait le service de com' d'Inter. Lady Marmalade.
Inter, zoom zoom zen.
Et toi qui nous écoutes-tu d'une oreille distraite en scrollant sur ton iPhone? Honte à toi, car tu n'es pas seulement irrespectueux, tu es potentiellement malade. Passer son temps à scroller a un nom, le doom scrolling. Dan Gezelhardt n'est pas médecin, mais il peut vous aider. Dans votre livre, Dan, Les Possédés, vous donnez le chiffre suivant. On consulte notre smartphone 221 fois par jour en moyenne. Plus dingue encore, on scrolle chaque jour l'équivalent en moyenne de 90 mètres. C'est la taille de la Statue de la Liberté, pas la petite qu'on a à côté de la maison de la radio, de la grande à New York. Est-ce que c'est juste tout ça une incommensurable perte de temps ou bien il peut y avoir des conséquences plus graves quand on y réfléchit?
Alors, je ne sais pas en fait si on peut dire que c'est une perte de temps, parce qu'en fait, quand on scrolle, on lit des informations qui peuvent être intéressantes. Maintenant, toute la question, c'est celle du contrôle, et c'est jusqu'à quel stade en fait on a envie de le faire, et on le fait non pas seulement parce que l'outil est si bien designé qu'en fait on est tranquillement dans son canapé et on a la flemme de faire autre chose. Je pense que c'est ça. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est surtout de la quantité, parce que je ne pense pas que ça soit grave en fait de passer un quart d'heure à regarder des infos sur tel ou tel réseau social. Mais voilà, il faut comprendre pourquoi on est captivé tant que ça. Et quand on essaie de chercher, on voit qu'il y a à la fois des facteurs qui sont intrinsèques à nous et qui sont vraiment, que ce soit des biais de confirmation ou des biais de négativité, qui font qu'on est captivé par une info négative. Et après, il y a des facteurs qui sont extrinsèques, qui sont vraiment liés à l'application et au design de l'application et au design du réseau social et du smartphone aussi, de l'outil qu'on utilise.
Oui, parce que ce qu'on perd de vue parfois quand on pense seulement s'informer, c'est qu'on vit dans une économie de l'attention.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il y a des gens derrière qui gagnent de l'argent avec ce qu'on fait, avec le fait qu'on scrolle. Donc ils ont tout intérêt à ce qu'on doom scroll, c'est-à-dire qu'on scrolle à l'infini pour eux, c'est l'idéal.
C'est exactement ça.
Et pour nous, c'est le danger.
Et surtout, tout leur business model repose là-dessus. En fait, c'est pas juste qu'ils gagnent un peu d'argent parce qu'on doom scroll. C'est oui. En fait, leur entreprise est construite sur le fait qu'on passe notre temps sur les applications et qu'on passe tout notre temps dessus. Et c'est vrai que ça donne les dernières applications en date. Alors évidemment, on pense tous à TikTok. Bah, c'est un outil qui a une expérience utilisateur qui est assez incroyable parce que en fait, elle est tellement optimisée et la recommandation est tellement forte, tellement personnalisée qu'on se dit qu'à la fois, en termes de design, c'est du génie, je trouve. Et en même temps, bah, c'est du génie, mais c'est aussi hyper dangereux parce que, en fait, on n'arrive pas à se sortir de ça, ou on a beaucoup de mal. Et on voit que l'algorithme qui tourne derrière, il est très, très balèze, ouais.
Manon.
Et là, il y a d'autres applications qui se mettent à copier TikTok, bon, évidemment, mais je pense à Spotify qui dernièrement vient justement de mettre une nouvelle interface où on peut scroller. Il y a plein de gens qui crient à une aberration, arrêtez s'il vous plaît. Est-ce que justement, on ne va pas se lasser de scroller si toutes les applications s'y mettent à un moment donné?
Alors, si toutes les applications s'y mettent, il faudrait espérer qu'on s'en lasse. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, j'ai l'impression. Et c'est vrai que c'est assez, je trouve, moi, plutôt malin de la part de Spotify. Alors après, évidemment, c'est malin en termes de business. Maintenant, il faut regarder et il faut se dire, est-ce qu'on a vraiment envie de tomber là-dedans? Et je pense que chacun doit essayer de se contrôler par rapport à ça. Et plus largement, il faudrait qu'il y ait une sorte de réglementation qui oblige les applications, peut-être soit par des notifications ou quelque chose comme ça, à nous signifier en fait qu'on a déjà passé 2 heures dessus, par exemple.
Globalement, on est victime d'un système, mais à l'échelle individuelle, on est un peu responsable tous aussi, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on a tendance plus à cliquer sur des infos angoissantes, on va plus cliquer sur le lien sur une histoire de tueur en série plutôt que sur les progrès de l'alphabétisation en Afrique. Enfin, c'est quelque chose de très profond à l'être humain. Le problème, c'est peut-être pas les GAFA, c'est peut-être la nature humaine.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a notamment ce biais de négativité qui fait qu'il y a des expériences qui ont été faites. Quand on présente 2 informations, une positive, une négative à un panel de gens, et ben la plupart vont aller vers l'information négative. On explique ça notamment par le fait que l'homme, durant son histoire, en fait, a dû être conscient du danger. Enfin, c'était plus important pour lui d'être conscient du danger autour de lui dans son environnement plutôt que d'être conscient de quelque chose de beau ou d'intéressant qui se passe.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui surgissent. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont des enfants qui nous écoutent, ils cherchent l'orientation. Est-ce que captologue, c'est une bonne voie d'avenir? La captologie.
La captologie, alors qu'est-ce que c'est la captologie pour le coup?
Ah, vous savez
non.
pas?
Non, je ne sais pas.
Alors, je vais vous le dire. Il y a des scientifiques au service des réseaux sociaux, donc payés par eux, qui ont créé la captologie qui étudie comment capter notre attention et la garder.
Ah oui, okay.
Voilà où on en est, comment. Voilà, c'est des gens dont c'est le. À l'intérieur
d'un
système.
Le métier d'analyser Exactement. L'économie de l'attention. Voilà. Ah bah oui, ça je pense que
c'est prometteur.
D'avenir. Ouais, c'est un métier d'avenir, c'est évident.
La psychologue Sabine Duflo, qu'on avait reçue à ce micro, dit plus on consomme ce genre de contenu, plus on en aura dans notre fil. C'est un cercle vicieux. Tout est fait de sorte à ce que ce soit beaucoup plus difficile d'arrêter plutôt que de continuer à regarder. Ça veut dire qu'en fait, on sera toujours moins fort que l'algorithme.
Oui, c'est évident qu'on sera toujours moins fort que l'algorithme. Maintenant, je pense que c'est pas non plus une bonne chose de remettre la faute uniquement sur l'utilisateur. Parce que pour moi, c'est un peu comme de dire, en fait, si tu fumes, bah, c'est parce que... Parce que
c'est
à cause de toi, tu es faible.
Oui.
Et en fait, non, c'est aussi parce que,
les pubs
parce que, évidemment, tu es dans un système où, en fait, on te donne la possibilité de fumer pour pas cher ou de manger des choses qui sont pas bonnes pour toi. Et je pense que c'est pareil. Il faut organiser ça de façon au niveau de la réglementation.
Et tout de suite, nous passons à une autre séquence très importante de notre émission, une séquence aventureuse avec un reporter de terrain qui n'a pas l'habitude de s'économiser chaque jour. Il parsillonnait la France pour nous à la rencontre des gens, Royan, Lille, Strasbourg, selon ses déclarations. Hein. Le troquet en face du cours Florent, selon la plupart des témoins.
Oh, Quentin, c'est faux.
Il est très sympa.
Parmi les comédiens que vous avez croisés ce matin, est-ce que la notion de doomscrolling a fait réagir?
Ça a fait réagir les gens, pas les comédiens. Et d'ailleurs, c'est en m'arrêtant à un feu rouge piéton que je fais la connaissance de cette femme. Bonjour à vous.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Alexandra.
Vous avez quel âge?
35 ans.
Et là, vous poussez une poussette.
Ouais.
Y a qui dedans?
Brune. Brune qui a 3 mois.
Alexandra me confie qu'elle bosse dans la com et que Brune est sa petite troisième. Je lui demande si elle connaît le
doomscrolling. Ouais, je crois que c'est le fait de passer beaucoup de temps à scroller sur Instagram pour ne rien faire et avoir bien l'impression d'avoir perdu 3 heures de son temps, surtout au moment où on a envie d'aller se coucher en général.
C'est votre cas?
Ouais, j'ai l'impression de ne pas avoir de temps pour moi. Et mon mari me faisait encore remarquer hier que pour quelqu'un qui n'a pas de temps pour elle, je passais un temps absolument infini à traîner sur mon téléphone.
Je lui demande de faire un test. On va regarder ensemble son temps d'écran. Elle sort son portable.
5h15 la semaine dernière. C'est presque 6 heures par jour. Voilà. Et après, je me dis, mon Dieu, mon bébé grandit trop vite et je passe même pas mon temps à la regarder. Maintenant, je passe pas mon temps à la regarder parce que je suis les yeux rivés sur mon téléphone. Je culpabilise beaucoup, je m'en veux beaucoup. Je me dis que c'est très bête. Et je me lève tous les matins avec des grandes résolutions de laisser mon téléphone dans un coin et de ne pas y toucher. Et spoiler, ça ne marche pas.
Manon, Mathieu, vous êtes à combien de temps d'écran, vous, par jour?
On a regardé.
Ouais, 4h20, moi.
Ça va?
Oh, j'étais étonnée.
Surtout pour une professionnelle
oui, et au boulot,
du scrolling. Oui.
J'étais malade cette semaine aussi, c'est pour ça.
Pour ça. 3h22 pour moi.
Pas mal, pas mal. Alors qu'elles sortent du train qui les ramène d'Avignon, deux retraités qui ont associé leur imperméable à leur doudoune en dessous se prêtent au jeu.
Le doomscrolling.
Le doomscrolling?
Qu'est-ce que ça peut être?
Par rapport à une activité?
Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est que de scroller déjà?
On nage?
On nage.
Oh là là.
Voilà, Claire et Catherine qui étaient parties sur le dos crawler, ça n'a rien à voir.
C'est bien meilleur pour la santé.
Je leur explique alors, et elles se sentent pas concernées, elles.
Pas nous, ah non, nous, c'est pas nous, nous du sommes tout. Dans les oliviers, dans la marge, dans les vignes, dans le
jardinage,
la création, la décoration, voilà.
J'ai la vous voyez pas dans le train des gens
si. Ah oui, bah bien sûr. Justement, dans le train. Nous étions avec un ami, bah justement, c'est un ancien champion du Mont Ventoux, et il nous disait. Mais pourquoi ils ne se parlent pas, les gens? Ils sont tous avec leur téléphone. On ne peut pas discuter. Je ne sais pas, ça serait intéressant de discuter.
Le doomscrolling nous coupe-t-il aussi de nos relations sociales? Voici Edouard maintenant, un fringant, trentenaire. Il lit avec l'accent, s'il vous plaît.
Le doomscrolling. Doom, ça m'a pensé au jeu, mais je ne pense pas que ce soit ça. Et le, je ne sais pas, ça doit être de faire défiler des images de fin du monde.
Et pas mal.
C'est ça, c'est à peu près ça. Ça se rattache aux bulles informationnelles, le fait que quand on est sur des réseaux, on n'a plus que ce qu'on veut. Il y a les problèmes d'algorithme qui font qu'on a quand même une nouvelle négative. Et après, il y a le problème du fait qu'on fait quand même face à un contexte très peu enthousiasmant. Et c'est pas trop étonnant qu'il y ait beaucoup de gens qui dépriment. Et ceux qui dépriment pas, on se voit la tête dans le sable, soit seront morts avant les conséquences.
Mais alors, qu'est-ce que ça dit de notre époque?
Ce que ça doit dire, c'est que les algorithmes voient que c'est quelque chose sur lequel on est susceptible de passer du temps. Il y a une vraie audience maintenant. Si jamais les algorithmes commencent à faire des bulles informationnelles sur les... des éléments dystopiques, comme disait Wikipédia, c'est qu'on commence à être attentif à ça.
Plus loin, je vois cet homme qui marche avec sa mallette dans la main droite, son manteau fermé presque en haut. On voit juste sa cravate bleue électrique en sortir. Il s'appelle Laurent, 59 ans. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Je suis juriste, notaire. Le doom scrolling. Le doom scrolling. Hein, l'un ou l'autre. Écoutez, j'en ai vraiment aucune idée.
Alors, le fait de scroller, peut-être. C'est quoi scroller?
Eh bien, je ne sais pas.
Je lui explique quand même en sortant mon téléphone ce pouce qui va de bas en haut, de manière frénétique, pour se nourrir d'informations, ingérer sans digérer, ce qui peut avoir un impact sur la santé mentale et spécialement celle des jeunes.
Eh ben vous me l'apprenez. C'est pas forcément un truc de jeune. Finalement, j'ai aussi des angoisses comme ça, sur tout ce qui se passe autour de nous, le travail qu'on va nous imposer de plus en plus longtemps, sur la guerre, sur la montée des populismes. Là, c'est les 90 ans de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Je suis en train de relire tout ça. Et je me dis que finalement, 90 ans après, on n'a pas tout compris. Et ça recommence. Mais bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui avec vous et je suis très content. Et je vais le placer avec mes filles dès ce soir.
Voilà. Bonne journée.
Merci à vous. Bon courage.
Paix à votre service. Le temps d'écran, le geste mécanique, la recherche d'infos, le tout pour ne pas être complètement à la rue, sauf ici, c'est permis.
Dan Gezelhardt, je rappelle que vous êtes l'auteur des Possédés, comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies. On vient d'entendre ces témoignages et Alexandra qui nous dit au tout début « J'ai même l'impression de ne pas assez voir grandir mes filles. Normal, je suis sur mon portable. » On en est là en 2023. Alors, il est très courageux ce témoignage, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le feraient,
qui seraient dans le déni,
hein, oui. Ça clairement, et ça c'est très courageux de sa part. Mais il y a beaucoup de gens que ça concerne, ça finalement.
Ah oui, ça concerne absolument tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est justement, on voit des gens qui ne voient pas vraiment grandir leurs enfants, mais qui les voient, qui postent des photos d'eux.
Ils les voient plus en photo.
Ils les voient grandir à travers les stories, exactement. Ah oui. Les stories des partenaires et donc, à la fin, on peut se questionner, mais en même temps, je pense que nous autres, alors on n'est pas tous des boomers autour de cette table, mais je pense qu'on a une fâcheuse tendance, en fait, à séparer le offline et le online et à se dire, oui, on est en ligne, donc c'est mal, alors qu'en fait, tout ça, ça s'entremêle, ce n'est qu'une seule réalité. Et donc, en fait, il faut essayer de voir, en fait, voilà, d'analyser ça. Et évidemment, pas passer tout son temps sur les écrans, mais ce n'est pas parce qu'on passe son temps sur les écrans que c'est forcément mauvais non plus.
Quentin.
Édouard nous dit « Oui, on scrolle des images dystopiques, mais c'est aussi une part de notre réalité. » Je vous ai vu réagir.
C'est exactement ça.
Oui. Est-ce qu'en fait, c'est normal d'angoisser, vu l'époque ? Laurent confirme d'ailleurs qu'il se sent angoissé sans scroller, lui, d'ailleurs.
Alors, on n'angoisse pas parce qu'on scrolle. J'ai envie de dire on scrolle parce qu'on angoisse. C'est plutôt ça, en fait.
Intéressant.
On va rarement essayer de se rassurer. Souvent, on essaye de se faire peur. Enfin, on veut voir tout ce qui se passe de pire, presque.
Mais je pense qu'il y a le FOMO. On a envie d'être au courant des dernières infos. Et typiquement, comme je le disais, quand il se passe un événement d'actualité, que ce soit d'actualité grave ou un attentat, quelque chose, eh bien, on a envie d'être au courant parce qu'aussi, on se dit, il faut que je sache parce que si je vais en parler après avec mes amis, j'ai besoin de savoir la dernière info.
Là, par exemple, tout le monde est en train de scroller sur le 49.3. Probablement.
Mais il y avait un TikToker qui avait arrêté son compte TikTok parce qu'il disait je trouve ça horrible parce que TikTok, en fait, on passe par toutes les émotions en très peu de temps. C'est vrai que pour un enfant ou un jeune ado, on rigole sur une vidéo, on angoisse sur une autre, on pleure sur une autre. Notre cerveau, il devient fou, en fait, avec ce scrolling compulsif.
Oui, alors je comprends ce TikToker-là. Après, c'est vraiment le principe de ce flux d'infos infini qui est en vrai TikTok, c'est comme si on avait une télé avec un seul programme et ce programme nous est vraiment personnalisé avec une personnalisation extrême. Et donc, en toute logique, on passe par toutes les émotions, on passe par la joie, par le rire, par les pleurs. Et en fait, constamment, en fait, on est accroché à ça. Il y a aussi beaucoup de dopamine. En fait, on a constamment envie d'avoir le prochain contenu qui va nous faire soit marrer, soit nous faire peur.
Il y a des études là-dessus, il y a une dimension biologique, physiologique du fait qu'on scrolle.
Alors sur TikTok, je ne sais pas, mais oui, il y a différentes études qui ont été faites sur le fait de sur vraiment le rapport au téléphone et au smartphone en général, ouais.
Claire et Catherine, qui sortent du train, nous parlent des voyageurs qui sont tous sur le téléphone en train de scroller. Plus personne ne se parle. Est-ce qu'on se parlait vraiment avant ?
Plus avant.
Je ne suis pas certain.
Alors, je ne sais pas.
Dans les lieux communs.
Peut-être pas tant que ça, maintenant, et il faut aussi se dire que certains se parlent des fois par message, mais en même temps, ça a quelque chose peut-être un peu de pathétique, et peut-être qu'il faut se servir de l'outil éventuellement pour se connecter, mais après se dire, ok, on le met de côté, et puis on se parle en vrai.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et le voilà, ce moment que la France attend chaque jour fébrilement, mais pas aussi spécialement aujourd'hui avec cette histoire de 49.3. Je peux vous dire que là, les gens sont au taquet, pour évidemment le Zoom Zoom Test. En cet après-midi, c'est un format que vous adorez, les enfants, car il récompense celui ou celle qui, dans l'équipe, a le plus bossé l'émission, une sorte de prime à l'effort. Regardez bien ce livre, c'est celui de notre invité, vous êtes censé l'avoir lu. Alors, qui a fait son boulot et qui a préféré s'envoyer des shots en soirée karaoké ?
Tu es mon millésime.
Ah, visiblement, c'est vous, Quentin.
Ma plus belle
c'est
amie.
Vous.
Non, j'ai appris par cœur le livre.
Attention,
je
top.
Suis à jamais.
Voici des questions basées essentiellement sur le chapitre « Temps de cerveau disponible » du livre de Dan. D'après vous, qui a dit des GAFA qu'ils ont, je cite, « dégradé l'humanité en piratant notre attention, en favorisant le dialogue par l'indignation, générant une dépendance au smartphone, le narcissisme et la polarisation du débat politique ?» Quelqu'un de chez Google ? Quelqu'un de chez Blériot ? Ou quelqu'un de chez Facebook ?
Google,
c'est Facebook.
Bonne réponse de Manon Mariani. Oui, ce jugement sans concession nous vient de Tristan Harris qui, il y a à peine 6 ans, était encore philosophe produit chez Google. Car oui, Bergson, Spinoza et Hegel doivent être informés du fait que la philosophie s'est considérablement étendue. Il y existe aujourd'hui des philosophes produits, Tristan étant l'un d'entre eux et même l'un des plus prometteurs de Mountain View. Seulement voilà, un jour, il a réalisé qu'il était plus philosophe que produit. Il a donc claqué sa dème de manière assez retentissante, estimant avoir échoué à éduquer ses petits collègues au respect de l'attention des utilisateurs. Depuis, il est devenu une figure des anti-GAFA. Mais il n'y a pas besoin de bosser chez Google pour dégrader l'humanité. Il suffit d'être un abonné Netflix. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre comportement d'utilisateur sur Netflix a un impact colossal sur la création. Et pas seulement quand vous cliquez sur le pouce en l'air pour signaler que vraiment vous avez kiffé The Last Dance. Ça sent que j'ai regardé chaque épisode 3 fois, je pense que l'algorithme avait déjà compris. Non, pourquoi d'après vous, si vous aimez une série Netflix, il ne faut surtout pas la déguster lentement, mais la binge-watcher le plus vite possible comme Manon avec The Last of Us.
C'est HBO, mais oui.
Ouais, enfin bref, ça marche pour toutes les plateformes. Oui. Parce que si vous êtes trop lent, Netflix va automatiquement accélérer d'un dixième de seconde par plan le prochain épisode que vous allez regarder. Parce que si vous êtes trop lent, l'algorithme de Netflix va vous identifier comme un senior et vous n'aurez bientôt plus que des films en noir et blanc sur la page d'accueil.
C'est bon ça.
Ou c'est parce que Netflix décide de faire une saison 2 en regardant uniquement les chiffres des 2 premières semaines.
La
c'est.
A.
C'est.
Donc Manon, dans votre monde, on est dans Black Mirror, on est un peu loin, on accélère les épisodes, on fait du speed-up sur des séries.
Je me suis dit, imagine, c'est ça, ça serait dingue.
Enfin, la réponse est dingue aussi. Réponse C, vous pensiez que Hollywood était brutal, bienvenue dans le monde merveilleux de Netflix. C'est durant les 2 premières semaines de diffusion que tout se joue pour une série. Si vous ne regardez pas assez vite les séries que vous aimez, vous les condamnez. Manon, c'est bon, vous avez sauvé Pedro Pascal, vous l'avez regardé en combien de temps?
Ah non, mais j'ai tout maté.
En combien de temps?
Il y avait un épisode par semaine pour le coup, je n'ai pas binge-watch.
Ce qui s'est passé avec la série drôle d'ailleurs, il n'y a pas eu de saison 2.
Là, c'est ça.
Alors
gens,
qu'elle était quand même.
Alors qu'elle était, elle était super.
Elle était dans le top 10 de Netflix.
Attention, top! Évoquons à présent une expérience qui en dit long sur le phénomène du doom scrolling. On a 2 groupes distincts à qui on sert des bols de soupe. Non, alors. Des bols de soupe, on leur sert des bols de soupe. Alors, c'est pas là que c'est flippant, même si pour Cyril Lacarrière, une expérience dans laquelle on est contraint de manger de la soupe, c'est déjà un avant-goût de l'enfer. Dans le premier groupe, les bols de soupe truqués se remplissent automatiquement au fur et à mesure que les gens mangent. Dans le deuxième groupe, les gens doivent demander à ce qu'on les resserve s'ils veulent plus de soupe. D'après vous, que s'est-il passé?
J'ai compris, j'ai rien compris, mais ok, d'accord.
C'est mieux expliqué dans le livre. Bon, alors, je réexplique.
Les gens se plaignent.
Achetez le livre. Achetez le livre.
Les gens se plaignent, Mathieu.
Vous avez deux groupes.
On y va.
Dans le premier groupe.
Oui.
D'accord.
Oui.
Les gens ont des bols de soupe qui sont truqués, c'est-à-dire qu'ils se remplissent automatiquement au fur et à mesure que les gens mangent.
Mais où?
Mais comment ça, dans le bol? Dans le deuxième groupe, les gens bouffent des bols de soupe et quand ils
sont... Où sont ces groupes? Qui sont ces gens?
Une étude! Certainement à Oxford! Je ne sais pas!
Je fleure!
Que s'est-il passé d'après vous?
On y va.
Réponse A. Cyril Lacarrière a quitté l'expérience furieux. Sinon, s'il n'y avait pas de boudin noir, ça n'avait aucun intérêt.
Ça, c'est sûr, oui.
B. Ceux qui devaient se resservir en soupe ont commencé à physiquement attaquer ceux qui avaient des bols de soupe infinis. Bols de soupe truqués.
Ou,
réponse C,
il arrive pas à la dire.
Ceux qui avaient des bols de soupe infinis se sont fait péter le bide comme des sagouins alors que les autres non.
C'est la B.
C'est
la B. Vous n'avez tellement rien compris que vous avez répondu n'importe quoi. Personne, même Dan n'a pas donné la bonne réponse.
Moi j'ai dit A.
Mais, alors,
c'est la
alors,
C.
A, c'est une bonne
ABC.
Réponse.
ABC.
Mais Cyril n'a même pas participé à l'étude. Non, la bonne réponse c'est que les personnes, réponse C.
Ah bah voilà,
j'ai gagné. Les personnes qui avaient le boule.
Non, bon, on va arrêter cette question. Passons à autre chose. Soyons sérieux. Arrêtons cette plaisanterie.
Mais c'est con. Ça en disait beaucoup sur le scrolling. C'est mieux raconté. C'est mieux raconté dans le livre. Scroller sur les réseaux, c'est comme dans les repas à volonté. On se sent obligé de manger beaucoup sans que notre corps en éprouve le besoin.
Voilà, fallait commencer.
Ah oui,
d'accord.
Enfin, attention, top. Quelle star en guerre contre ce monde du fake que sont les réseaux sociaux a carrément un jour convoqué les patrons de Twitter, Snapchat et Facebook pour leur dire, avec son sens habituel de la formule et ce style fleuri qui trahit une lecture peu attentive de Paul Valéry, je cite « Afficher la quantité de vos likes à la face du monde, c'est un peu comme montrer combien d'argent vous avez sur votre compte en banque ou inscrire la taille de votre bite sur votre t-shirt. »
C'est classe.
Gérard Depardieu?
Oui, bah...
Kanye West?
Oh là...
Ou Booba?
Kanye West.
Bonne réponse de Manon qui triomphe dans le quiz. Eh oui, c'est bien lui, on l'a oublié, mais dans un de ses rares instants de lucidité, Kanye avait convoqué les patrons de Twitter, Snap et Facebook pour leur suggérer de supprimer les likes et les commentaires sur les réseaux sociaux. Il restait pas grand-chose, du coup.
Oui, bah oui, sur les réseaux sociaux.
Victoire
Une
de Manon.
Idée encore.
C'est la soupe, ça.
Ça, c'est la soupe. Ouais, moi, je retiens qu'il faut manger de la soupe. Dan Gezelhardt est toujours avec nous. Alors, Dan, il y a quelques années, on regardait Black Mirror en jouant à se faire peur. Là, j'ai l'impression qu'on est maintenant un peu dans Black Mirror avec cette addiction aux écrans, ce doom scrolling permanent. Est-ce qu'il y a des différences entre les générations ? Dans le magazine Cosmopolitan, une infirmière et conseillère en santé mentale dit que les enfants et les adolescents bénéficient d'une éducation à l'information qui les sensibilise à ces dangers, qu'ils apprennent tôt à réfléchir à leurs pratiques numériques, ce qui n'est pas forcément le cas de la génération Y, par exemple, comme la mienne, ou encore moins des boomers. Est-ce que oui. C'est vrai que les jeunes sont moins sensibles au doomscrolling ?
Alors, ils sont sensibles aussi, mais je rebondis sur ce que vous disiez sur Black Mirror. Je pense qu'il faut le remater toutes les saisons aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont complètement d'actualité, donc c'est très intéressant. Maintenant, sur les conflits de génération, je pense qu'il n'y a pas vraiment de généralité qu'on peut faire. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que comme vous le disiez, les jeunes ont grandi dedans, et il y a par exemple un phénomène que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a certains membres de la génération Z, donc qui ont autour de la vingtaine aujourd'hui, qui en fait n'ont pas qu'un seul compte sur les réseaux sociaux, qui en ont plusieurs. Typiquement, ils peuvent avoir plusieurs comptes Instagram, ils en ont un officiel qu'ils montrent à leurs parents, à leurs profs et pour le boulot, et enfin pour par exemple quand ils veulent être recrutés. Et donc ça, c'est le compte officiel qui est à leur nom, et ils ont un ou deux autres comptes en fonction de leur groupe d'amis, où ils vont mettre des trucs plus ou moins perso, de photos de soirée. Et ça, je trouve ça intéressant parce que d'une part, ça montre qu'ils sont complètement conscients de la façon dont fonctionnent ces réseaux sociaux, et ça leur permet aussi en fait de tromper les algorithmes dans un sens.
Manon ?
Oui, je me demandais, on disait il y a 15 ans que la télé-réalité, c'était ce qui abrutissait les jeunes au plus haut point. Est-ce que maintenant, c'est le scrolling qui abrutit justement la jeunesse ?
Non, je ne pense pas que ça les abrutisse. Je pense que c'est vraiment la façon dont on utilise les outils, encore une fois. Et encore une fois, tout dépend de ce qu'on regarde. En fait, si on scrolle pendant des heures, comme vous le disiez, Mathieu, sur des trucs de littérature, j'en sais rien, en fait, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que TikTok, je ne sais pas si vous avez vu, fait une campagne de pub uniquement sur leur trend BookTok, ce qui est quand même assez incroyable. C'est vraiment du purpose washing, parce que on voit que là, pour le coup, tout ce qu'ils nous racontent, c'est que les gens s'inscrivent sur TikTok, ils restent quelques instants et après vont lire des bouquins, alors qu'en vrai, c'est quand même pas exactement ça, quoi.
Oui, et en plus, pardon, mais TikTok, c'est aussi, on disait, oui, on scrolle pour aussi chercher des informations sur des sujets, c'est quand même bourré aussi de désinformation.
De désinformation et puis de vidéos de n'importe quoi qui servent à rien. Voilà, il y a vraiment de tout, et il y a beaucoup de fake news aussi, il est vrai. Ouais.
Vous étudiez les comportements des utilisateurs. On parle de quoi ? De dépendance ? De pathologie ? C'est quoi les conséquences concrètes ?
Alors, je ne parlerai pas de pathologie, mais je parlerai de dépendance, et je parlerai en effet plus, moi je vois le problème plus du côté des plateformes plutôt que des utilisateurs. En fait, l'idée, c'est pas de pathologiser le problème et de dire que c'est les gens qui ont un problème. Pour moi, c'est un peu comme l'éco-anxiété, en fait. C'est de dire que les gens qui ont peur de la crise climatique, en fait, on dit qu'ils sont malades, alors que non, en fait, ils sont pas malades,
ils ont
juste lucides. Et c'est la même chose, je trouve, par rapport à ça, en fait. Il y a des gens qui ont des problèmes qui utilisent trop leur smartphone. Alors certes, c'est un cas, c'est un fait, mais le problème est plus du côté des plateformes, et c'est là qu'il faut essayer de trouver des solutions, je pense.
Il y aura, vous imaginez, un problème de santé publique comme on a eu la cigarette il y a quelques années, et des préventions, des systèmes de prévention pour se prémunir,
comme c'est addictif.
Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher, c'est des choses qu'il faut réfléchir, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que la régulation de ces plateformes, elle est complexe, parce que là, on parle quand même de plateformes qui sont américaines ou chinoises, et on n'a pas du tout les mains dedans, en fait, parce qu'on est juste des utilisateurs à notre niveau. Alors certes, il y a des choses qui sont faisables au niveau européen, mais pour l'instant, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à la force de ces plateformes, quoi.
Est-ce que le problème de la santé mentale, auquel on avait consacré une émission, il est lié quelque part au doom scrolling, c'est-à-dire que on en parle plus aujourd'hui parce que on a peut-être plus de problèmes de santé mentale à cause de ce doom scrolling qui fait qu'on passe la journée devant l'écran?
Alors oui, je pense que on a des problèmes de santé mentale avec ces outils-là, mais encore une fois, je pense pas que ces problèmes viennent typiquement de là. Par contre, ils peuvent les accentuer. Je pense que c'est ça principalement.
Mais le principe,
et ça peut nous renfermer. Et c'est vrai qu'il y a aussi la bulle de filtre, on n'en a pas parlé. Et la bulle de filtre qui est une sorte de bulle de confirmation de nos propres opinions. Donc on reste bloqué. Voilà, on va se tourner forcément quand on s'inscrit sur un réseau social. Twitter, par exemple, on va suivre des gens qui ont les mêmes opinions que nous. Et finalement, on va voir que les contenus de ces gens-là. Et donc, on va rester bloqué dans cette bulle-là. Et donc, ça pousse à l'entre-soi. Et ça pousse à la multiplication de fake news, notamment, et de gens qui croient à tout et n'importe quoi.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, pour la com' d'Inter, résolument tournée vers l'avenir, il est le Ludion à la gouaille truculente. Pour moi, il restera toujours Benjamin Tranier. Que pense-t-il du doomscrolling ? En pense-t-il d'ailleurs quoi que ce soit ? Ou bien s'est-il forcé pour l'émission ? On va pas tarder à le savoir. Mais d'abord, écoutons celle qui capte l'air du temps comme personne, et parfois elle-même, elle le devance, grâce à sa veille sanitaire sur les réseaux. Manon, aujourd'hui, vous êtes intéressée à un hashtag qui monte sur TikTok.
No Digital Distortion. Traduction, pas de retouches numériques. Un hashtag qui prône donc la beauté naturelle et le body positivisme avec des vidéos de femmes qui se filment sans filtre. Et ça fait du bien. On a l'impression de voir de vraies personnes, Mathieu, pour une fois, si, je vous jure. Des personnes avec des défauts, des boutons, des cicatrices, des taches, loin des clichés de pseudo-perfection que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Ce hashtag cumule plus de 147 millions de vues et il n'a pas été lancé par n'importe qui. C'est la marque Dove qui l'a créé. Dove qui, depuis de nombreuses années, lutte contre les images zéro défaut. La marque a arrêté d'utiliser des outils de retouche dans ses campagnes depuis 2006. Et récemment, elle a publié une étude qui fait froid dans le dos. 80% des femmes ont déjà appliqué un filtre ou utilisé une application pour changer leur apparence. Et ça commence dès l'âge de 13 ans. Et justement, si Dove a décidé de lancer ce hashtag sur TikTok, ce n'est pas pour rien. Car en ce moment, un filtre fait énormément polémique sur l'application chinoise, le filtre Bold Glamour.
Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce filtre Glamour intrépide ?
Alors, il est censé améliorer notre visage. Sauf que là, ce n'est pas une amélioration, mais un changement drastique. Plus un défaut des lèvres pulpeuses, les sourcils fournis, la mâchoire structurée, les pommettes hautes, le maquillage qui va avec. Bref, on ressemble toutes à des Kylie Jenner en puissance. Ce Bold Glamour Filter se base sur les critères de beauté que les réseaux sociaux veulent véhiculer aujourd'hui et ça fait peur. Et s'il marque autant par son réalisme, c'est qu'il fonctionne à l'aide de l'intelligence artificielle, donc il est beaucoup plus précis que ses prédécesseurs. Il a été utilisé dans 22 millions de vidéos sur TikTok, alors je sais que le chiffre fait peur, mais je vous rassure, la majorité des utilisateurs réagissent comme ça quand ils se voient avec.
Oh là là, c'est laid, c'est laid. C'est très très laid.
Voilà, le filtre Bold Glamour est donc loin de faire l'unanimité. Il est vivement critiqué sur les réseaux. Certains demandent son retrait car son ultra-réalisme peut détruire la confiance en soi des plus jeunes. D'autres dénoncent encore une fois cette uniformisation de la beauté. De plus, je le précise, quand un homme utilise ce filtre, le résultat n'est pas le même. Sa peau est juste un peu lissée, mais le changement n'est pas du tout radical. On est clairement, encore une fois, sur un filtre pensé pour les femmes.
Mais si je comprends bien, il n'est pas utilisé de façon sérieuse alors.
Non, en général, les TikTok sont des avant-après pour montrer les changements honteux que fait le filtre sur leur visage. C'est vrai qu'on dirait vraiment deux personnes totalement différentes et le naturel l'emporte toujours. De toute façon, sur TikTok comme sur n'importe quel réseau social, c'est toujours précisé lorsqu'un filtre est utilisé et heureusement, imaginez, sinon ce serait la foire aux faux profils. Mais cette prise de position contre ce filtre montre une vraie évolution des mentalités. Il y a 10 ans, lorsque Snapchat avait inventé les filtres sur les stories, c'était une révolution. Tout le monde utilisait les oreilles de chat et les taches de rousseur mignonnes. Sauf que la blague s'est transformée en véritable addiction pour beaucoup. Les influenceuses ont commencé à utiliser les filtres à outrance, véhiculant un message dangereux pour leurs plus jeunes followers. Résultat, les chirurgiens esthétiques ont été envahis de demandes de jeunes femmes qui voulaient ressembler à leur version filtrée. Mais cette époque semble être révolue. Sur Instagram, la mode aujourd'hui est justement de s'afficher sans filtre, au naturel. Selena Gomez, la femme la plus suivie du réseau, a d'ailleurs posté une photo d'elle sans retouche cette semaine, un carton, plus de 22 millions de likes. Les filtres comme le Bold Glamour sont donc devenus ringards, révolus, et c'est une bonne chose. Enfin, un bon exemple donné aux jeunes femmes. Alors, un conseil, n'allez pas tester ce filtre de la honte, il a déjà été beaucoup trop exposé. Le naturel, il n'y a que ça de vrai.
Merci Manon, même si c'est toujours un peu douloureux de découvrir que des choses sont déjà devenues ringardes avant même que j'ai eu le temps de comprendre qu'elles existaient. Heureusement que Benjamin Tranier, le Ludion à la gouaille truculente arrive, ça va me faire beaucoup de bien. En attendant, écoutons Little Sims, Heart on Fire sur Inter.
Honesty between a seller and a buyer should be a given, but man, I didn't know you were a liar. Dropped out of college, still I made it through the wire. We was trying to hustle whatever was 10 just for a fiver. Don't sell yourself short, miss, said the driver. Was on my way to getting caught in a crossfire. I mean, lavish living, dripping designer. Who you wearing? They're so enchanted by attire. Hearts on fire, bought the dream with every penny that I acquired. This is set up and you'll be next up to those prior. Devil works hard, but the business works harder. I vowed from now to work smart.
smarter. They won't do it like us. For the people by us, why they wanna fight our spirit on higher. God made truth of everything I desire. I'll rule much as long as I got my baby, he a rider. He's sitting beside her, that's who she confiding. They want you conniving, creeping with your side ting, making up a story that equals somebody buying. New world order, cause life as we know is dying. Not thriving, it's only a matter of timing. Ain't it just funny how you can literally give your everything? Somebody gonna turn around and tell you you ain't gave enough. Danger, what you afraid of? Acknowledging it's impossible now to restrain her. Worst thing I could have done is put trust in a stranger. But that needed to happen for me only to wake up. The shoots will get in your ear when your shit popping. Lies overflowing and they ain't stopping. You don't even recognize who it is that you're becoming. They don't give a shit long as the gravy train running. So pure, do it for the love, not more. Nah, maybe to cop mama house, but not more. Maybe to sort my cousin out, but not more. Maybe I'll get a new coupe, not more. 15 to 100 shoes, not more. By the time you know it, that list never stopped growing, and you don't know what you even do this for. Hearts on fire, hearts on grand door. Ballroom gowns and champagne pours. Is the after party, the social party, with everybody talking, the music should have been paused. Marble floors and tall glass doors is what you're in for. Did you read the clause? It was never about looking for results now. Every time you do something, you need an applause. Please keep your head on when you're going through the mains, cause navigating the fame is something you're never trained for. Tell me what you came for, wanted better days, and now you're running away from that very thing you prayed for. Tell me, am I tripping or is the light blinding? Am I anxious or am I excited? Am I calm or am I unbothered? Or maybe I needed my fire to be ignited. Hearts on.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
En ce jeudi 16 mars, il y a ceux qui doomscrollent pour savoir ce qui va se passer avec cette histoire de 49.3. Et puis il y a les amateurs de poésie qui écoutent Zoom Zoom Zen et qui ont hâte d'entendre Benjamin Tranier raconte la descente aux enfers de Fabrice Megma.
Nous sommes le 19 novembre 2022, journée mondiale zéro déchet. Pendant les happy hours, la FNAC refuse de vendre des places du nouveau spectacle d'Aymeric Lomprey. Nous sommes donc le 19 novembre 2022 dans une zone pavillonnaire d'Ognon-sur-Orteil. La résidence tout entière est alertée par des cris de terreur qui proviennent du 51 rue Amara-Dianey. Fabrice Megma, un homme de 35 ans, vit encore chez sa mère. Qui sommes-nous pour juger ? Vient de faire basculer le dîner de famille dans l'horreur. Fabrice, un casque en alu sur la tête et une cuillère à glace dans la main, vient de scalper le crâne de son père, telle une coco givrée chez les frères Tang. En hurlant « Regardez, c'est tout rouge à l'intérieur ! Avec mes conseils, ça ne serait jamais arrivé !» Sa mère hurle de terreur. 8 mois plus tôt, Fabrice Megma s'inscrit sur TikTok et découvre l'application pour la première fois. Il scrolle puis like un cul. Il scrolle encore à la recherche d'autres culs et like un TikTok sur la forêt amazonienne en train de brûler. Un like sur l'Égypte et ses belles pyramides. Oups, une vidéo de complotiste. Pas grave, je laisse mon like, c'est trop tard, se dit-il. Encore un petit like sur un enfant qui raconte sa maladie avec un lien vers la cagnotte Litchi pour l'aider. Il clique sur le lien pour donner de l'argent. Le lien renvoie sur les funérailles de l'enfant. Aïe. 11 minutos, tardesse. Ce que Fabrice ne sait pas, c'est qu'il est trop tard. Il a beau s'être inscrit pour se divertir, la graine est plantée dans son petit crâne chauve d'arbitre de Ligue 1. À raison de plusieurs heures par jour, l'algorithme de Fabrice ne lui envoie plus trop de TikTok d'influenceuses en slip borate pour des placements de coupe-faim anti-cancer. Mais uniquement des vidéos de conflits armés, de Russes bourrés qui se battent avec des ours et de partenariats rémunérés par le Puy du Fou. Quelque chose cloche chez Fabrice, sa mère sans doute, car elle ramasse de moins en moins de sopalins dans sa chambre. Quelque chose d'autre occupe son temps et son esprit. Sa mère le sait, il ne s'agit pas d'une petite amie, car Fabrice a 35 ans et possède un sac à dos One Piece. Fabrice ne voit plus la vie en rose, il ne voit que violence, conflits et bad buzz. Excellent film, au passage. Ce soir-là, la famille est à table. Quand au moment de passer au dessert, une violente dispute éclate. Fabrice demande à son père de se mettre un chapeau en papier d'alu sur la tête pour se protéger de la fin du monde, qui viendra des ondes 5G. Comme il l'a demandé depuis maintenant 2 mois, il menace aussi sa mère. Et la viande, c'est pas tous les jours. Tu baises la planète, maman. Et puis si t'es gros, c'est parce que tu es en dépression. Fais du sport, comme Thibaut InShape. Il se saisit d'un couteau, d'une cuillère à glace et fait des boules de melon avec le cerveau de son père. Autour de la table, les voisins se précipitent. Autour de la maison, les voisins se précipitent. Le GIGN débarque et le maîtrise à l'aide d'un frigo envoyé dans sa grand-mère. Après un séjour en NHP, où on lui a appris que les juifs n'étaient pas des reptiliens et que la terre n'était pas plate, il est aujourd'hui en prison où il anime un atelier de sensibilisation de la colère en compagnie de Stéphane Bern, tombé pour avoir dressé un portrait dégradant de la femme de François Ier. Complètement sevré de TikTok, sa famille pensait qu'il s'en sortirait jusqu'à ce qu'il s'inscrive sur Twitter. Merci et bonne soirée.
Merci beaucoup Benjamin Tragny, on vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen. Et demain soir dans le prime du Palmachot sur TF1, c'est bien ça.
Chicos, ouais. Tout à fait. Exactement.
J'ai l'impression que vous êtes dans une sacrée spirale de la win, petit Ludion à la gouaillerieuse. Merci à vous Dan Gezelhardt de nous avoir éclairé sur le doom scrolling. Je rappelle votre livre coécrit avec Lorraine Boudard, Les Possédés, comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies. Et vous avez également fondé, je l'ai dit en début d'émission, on n'a pas dit ce que c'était, Tech Trash. C'est quoi Tech Trash?
Tech Trash, c'est une newsletter hebdomadaire justement qui parle de la tech, de notre rapport à la technologie. Donc, pas forcément des produits, mais vraiment de comment on vit avec la technologie en général, quelle place elle a, quelle place a le numérique dans nos vies. Et on le fait ça, on fait cette analyse de façon sarcastique, drôle. Donc voilà. Donc, je vous invite à vous inscrire. Il faut s'abonner, c'est sur techtrash.fr.
Moi, une dernière question. Black Mirror, c'était prémonitoire pour vous?
Black Mirror, il y a plein de choses. J'invite tout le monde à revoir. Il y a plein de choses qui sont déjà en cours et des choses qui vont arriver, je pense, dans quelques temps. Alors maintenant, il ne tient qu'à nous de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça.
L'application où on se note nous-mêmes, c'est pour bientôt, quoi.
Bah exactement, ça existe déjà dans certains pays, donc pour le coup, il y a plein de trucs, plein de petits
le
trucs.
Alors, social.
Pas forcément les trucs les plus gros, mais il y a plein de petits trucs qui sont déjà là.
Regardez Black Mirror, c'est votre conseil. Merci encore, merci à tous. La piquante Manon, l'homme de terrain Quentin, le facétieux pédagogue Cyril Lacarrière, Étienne Bertin était à la réalisation, David Deepway Black à la technique. Zoom Zoom Zen, c'est fini. On sera là demain pour vous décrypter le phénomène manga, mais d'ici là, restez sur Inter.